France Culture, il est 16h. Tout de suite, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réactions sont attendues sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. À quoi servent les controverses scientifiques ? La science se nourrit des controverses qui apparaissent à chacune de ses avancées majeures. Historiquement, elles ont probablement toujours existé car elles surgissent dès que la démarche scientifique bouscule les connaissances établies. Les exemples célèbres pullulent si l'on remonte au XVIe siècle avec Copernic qui met le Soleil et non la Terre au centre de l'univers connu à l'époque, suivent Galilée, Pascal, Newton, Darwin ou Pasteur, tous ont dû se battre pour imposer leurs résultats. Plus près de nous, Einstein s'est opposé à Bohr sur la mécanique quantique. La communauté scientifique a largement débattu de la mémoire de l'eau, de la fusion froide ou des origines humaines du réchauffement climatique. Malgré cette longue tradition, les controverses scientifiques ont sensiblement évolué au cours des dernières décennies. Alors qu'elles restaient confinées au sein de la communauté des savants, qui inclut les théologiens et les philosophes, les controverses scientifiques concernent de plus en plus le grand public. Sans doute parce que le délai entre les avancées de la science et leur mise en œuvre technologique s'est considérablement raccourci. Albert Einstein apporte un exemple frappant de cette évolution lorsqu'il écrit « Dieu ne joue pas au dé » en 1927 pour contester l'approche probabiliste de la mécanique quantique. La société ne peut jouer, elle, qu'un rôle de spectateur. Mais lorsqu'il se rend compte que ses travaux peuvent conduire à la fabrication d'une bombe atomique par l'Allemagne, Einstein prévient du danger le président des États-Unis dans une lettre d'août 1939 qui conduira au projet Manhattan. Il regrettera d'ailleurs d'avoir signé cette missive lorsque, 6 ans plus tard, en août 1945, les villes d'Hiroshima et de Nagasaki sont anéanties. Aujourd'hui, les controverses scientifiques ne se jouent plus uniquement dans les salons feutrés des académies savantes. Qu'il s'agisse du réchauffement climatique, des OGM, des ondes électromagnétiques, du nucléaire, des nanotechnologies, du gaz de schiste, des pesticides ou même de la vaccination, l'opinion publique est devenue une actrice déterminante. Et derrière elle, la politique et le judiciaire. Mais aussi les lobbies entrent également en lice pour encadrer ou défendre les applications de la science dans la société. Comment fonctionne ce jeu complexe auquel participent désormais tous ces acteurs? Tel est le thème de l'université d'été organisée en 2013 par l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, l'IHEST. L'essentiel des interventions fait l'objet d'un ouvrage intitulé « Au cœur des controverses, des sciences à l'action » publié chez Actes Sud en 2015 et c'est le sujet de notre débat dans Sciences Publiques. Pour cela, nous recevons aujourd'hui en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Jean-Michel Beignet, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, philosophe, Marie-Françoise Chevalier-Leguyader, directrice de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, Laurent Néré, juriste agrégé en droit privé et sciences criminelles et professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et Jacques Testard, biologiste, directeur de recherche honoraire de l'INSERM, pionnier de la fécondation in vitro humaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. Marie-Françoise Chevalier-Leguyader, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors pour quelles raisons avez-vous choisi ce thème de la controverse scientifique pour votre université d'été ?
Comme vous l'avez dit, effectivement l'omniprésence de la notion dans l'espace public fait que bon, dirigeant un institut qui vise à sensibiliser des responsables de tous horizons aux enjeux des sciences et des technologies aujourd'hui dans les sociétés. Nous sommes avec le conseil scientifique dont Jean-Michel était membre, du reste, Beignet qui est avec nous, et nous avons donc décidé d'investiguer cette notion. Alors pourquoi je dis investiguer ? Parce que autour de ce mot de controverse, il y a énormément de flou. On confond souvent des controverses avec des polémiques, et même le débat. Or, ce sont des processus différents. Une controverse, comme vous le savez, porte sur des objets, un objet dont deux personnes ne sont pas en accord, je veux dire, dont les prédicats doivent évoluer pour pouvoir quelque part la résoudre. Parfois, on n'arrive pas à les résoudre parce qu'il n'y avait finalement pas d'objet de la controverse. Et ceci est fondamentalement différent de la notion de débat public qui, elle, concerne le jeu des acteurs et toutes les discussions, bien sûr, qui sont autour qui sont portées par ces acteurs. Et donc, il convient bien de comprendre ce qui se joue quand on parle de controverse, quand on parle de débat, et savoir que la controverse scientifique, au départ, enfin, elle est confinée, elle se déroule dans un univers clos, si je puis dire, entre des scientifiques qui ne sont pas d'accord sur les prédicats de l'objet, et elle doit être finalement arbitrée par une tierce personne. Et cette tierce personne, de plus en plus souvent, la controverse se déconfine, part dans l'espace public, et cette tierce personne, c'est pas forcément des scientifiques des pairs, mais ça peut être une académie, bien sûr, mais ça, on est toujours dans l'univers scientifique, mais ça peut être les médias, ça peut être l'opinion, le public. Et donc, ce passage permanent de la controverse scientifique dans l'espace public, et parfois son retour une fois qu'elle a été réglée, est un processus qui doit être compris et analysé. Et c'est l'objet du livre que nous avons donc édité, avec des contributions, y compris aussi celle de Laurent Néret, qui est ici présent. Voilà.
Très bien, on va y revenir, bien entendu. Jacques Testard, bonjour.
Bonjour.
Alors comment, de votre côté, vous jugez cette évolution un petit peu de la controverse dont Marie-Françoise Chevalier-Bugadère vient de parler, autrefois assez confinée, et aujourd'hui qui fait des allers-retours entre différents domaines de la société civile?
Ouais, c'est pas tellement sur le mot controverse que j'insisterai, c'est plutôt sur le mot scientifique. Si on parle d'OGM, de nanotechnologie, de nucléaire, on n'est pas du tout dans des débats dits scientifiques, on est dans des débats de société. Et ce qui paraît évident, c'est qu'aujourd'hui, c'est la société civile qui impulse ces débats, qui les met à l'ordre du jour. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les associations qui, en général, luttent contre des innovations, contre des choses qu'ils estiment desservir l'humanité, eh bien, il n'y aurait pas de débat. Il n'y aurait pas de débat, par exemple, sur les OGM. Les biologistes moléculaires, les généticiens, n'auraient pas fait un débat sur les plantes transgéniques de leur plein gré. C'est parce que la société civile a poussé et a mis sur le tapis des problèmes que ils se sont interrogés et que certains, une minorité, se sont trouvés un peu du côté de la société civile. Donc je crois que là, il y a un énorme changement et que la société civile a un rôle moteur dans toutes ces controverses qui sont des controverses socio-techniques.
On va essayer d'explorer cet univers nouveau. Donc Laurent Néret, bonjour.
Bonjour.
Justement, en tant que juriste, on est peut-être surpris de vous trouver intéressé par ces mécanismes. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce domaine ?
Je dirais que traditionnellement, le droit a plutôt affaire à la certitude et à l'absence de controverse, parce que on connaît toutes et tous le proverbe habituel qui est que le doute profite à l'accusé. Et en réalité, c'est l'extension du champ des incertitudes et l'extension de l'impact scientifique et technologique dans le droit qui convoque le juriste, le juge et le décideur public, comme les autorités réglementaires, les pouvoirs politiques, à trancher en situation d'incertitude. Et d'ailleurs, souvent, c'est comme si c'était le dernier recours, comme si le juge devait être l'arbitre des controverses. Et est-ce que c'est sa mission, en tous les cas, comment passer de l'incertitude scientifique, de la controverse scientifique à, non pas une vérité juridique, mais à ce qui est considéré comme juste? Voilà un peu ce dont on pourra parler au travers de nombreux exemples de décisions de justice, qu'elles soient en France ou ailleurs dans le monde.
Absolument. Jean-Michel Beignet, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant que philosophe, on a donc un grand spectre de disciplines représentées autour de cette table. Vous avez participé à cette université d'été de l'IHEST, comme le rappelait Marie-Françoise Chevalier-Bugadère tout à l'heure. Du point de vue du philosophe, comment vous avez analysé ce statut de la controverse scientifique ?
Eh bien, moi, cette controverse scientifique, elle m'est apparue comme ce qui, en un premier temps, pouvait donner à penser que la science était fragile aux yeux de notamment de la société civile, puisque tout à coup, le public découvrait que la science, dans l'économie de son développement, eh bien, fonctionnait sur la base de controverses. Et le risque était que le public en tire une conséquence tout à fait absurde, consistant à dire, bah, finalement, si la science est minée par des controverses, c'est bien qu'elle n'est pas ce qu'elle dit, à savoir le foyer de la vérité. Hein. Et du coup, une grande fragilisation pouvait en résulter. Et de fait, cette fragilisation, elle existe bel et bien. La mort des positivismes, en tout cas la disqualification des positivismes, a ouvert la voie à un relativisme qui a conduit certains à considérer que la science était une mythologie comme une autre, hein, et qu'à ce titre, il n'était jamais question que de rapport de force, hein, et qui dit rapport de force dit précisément toujours la possibilité de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Eh bien, le thème de la controverse scientifique, finalement, il a été suffisamment bien orchestré, me semble-t-il, dans les années passées, pour que il apparaisse, comme le disait Jacques Testard, comme finalement la possibilité pour la société civile, pour le public, eh bien, d'objecter à la science dogmatique que le positivisme voulait nous imposer, objecter finalement aux scientifiques qu'ils doivent être ce qu'ils sont, hein, et ils sont ce qu'ils sont lorsqu'ils sont dans la controverse. Donc le chercheur a été obligé de lever le masque d'une certaine façon en disant ben oui, c'est vrai, hein, nous la vérité scientifique, eh bien elle est toujours le résultat de discussions qui étaient pourtant pour l'instant des discussions internes et hermétiques au public, mais nous fonctionnons à la discussion. Eh bien le public, les profanes sachants, comme on les a appelés, en ont rajouté en disant, eh bien, discutons donc. Hein, et donc, la mise en culture, la mise en espace public de la science résulte de cette prise au sérieux de la controverse scientifique, hein, qui, loin d'être, encore une fois, une objection à la science, est précisément l'argument qui permet de réhabiliter la science dans un contexte où on ne peut pas la confiner simplement à l'espace des chercheurs.
Alors ce basculement entre un positivisme qui lui était aussi excessif dans sa foi en l'omnipotence de la science, à un relativisme qui aussi nie ce que peut apporter la science, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que le grand public, l'opinion publique était relativement ignorante de ce que des mécanismes intérieurs de la science, et que à partir du moment où on lui dit que la science fonctionne par le doute, par la remise en question, par le débat, par la controverse, eh bien, il découvre que cette image peut-être idéalisée qu'il avait n'est pas exactement celle qui existe, Jacques Testard. Est-ce que c'est pas là un déficit de culture scientifique qui existait à l'époque où les choses se sont développées comme ça?
Oui, peut-être, mais je pense surtout que si la société rechigne un petit peu à toutes les belles innovations qu'on lui propose, c'est parce qu'il y a eu des expériences malheureuses, c'est parce que des analyses, même sommaires, montrent très vite qu'il y a des intérêts économiques, beaucoup plus que des intérêts de connaissance, par exemple, ou un souci du bien commun, et qu'à partir de ce moment-là, les gens organisés dans les associations se mettent en situation d'opposition, apportent des arguments et exigent des réponses.
Alors là, on sort quand même de la vérité scientifique dont parlait Jean-Michel Beignet, puisque là, elle est flétrie ou elle est violée par d'autres intérêts que celui de la connaissance.
Oui, il y a aussi quelque chose de nouveau côté scientifique ou techno-scientifique, c'est qu'avant, les gens qui posaient une hypothèse, vous évoquiez tout à l'heure Copernic, enfin bon, les grands trucs classiques, ils appartenaient à une discipline assez précise. Aujourd'hui, sur les thèmes dont on parle là, les OGM, les nanotechnologies, le nucléaire, c'est pas une discipline. Il faut faire appel pas seulement à des biologistes ou à des physiciens, mais il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des historiens, des anthropologues qui interviennent dans ces débats. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus une vérité toute mâchée, mais il y a un faisceau d'arguments, des faisceaux d'arguments, parce qu'ils peuvent s'opposer, et c'est là que la société civile arrive à trouver sa place. C'est qu'elle apporte aussi, en tant que les citoyens vivants aujourd'hui, faisant des enfants qui vivront plus tard, un certain souci de la planète, de l'humanité, qui vient éventuellement s'opposer à des projets qui ne sont que des projets techniciens.
Alors justement, est-ce que c'est pas aussi une différence avec la science d'avant, qui était très loin de la société et qui faisait des découvertes qui n'avaient pas forcément d'application, parfois immédiate, mais pas d'application du tout, parfois c'était de la connaissance pure pour une partie de ces découvertes, alors qu'aujourd'hui on a un peu l'impression, et c'est ce qu'on met souvent sous le label technoscience, que il y a une soudure un peu.
Absolument. Aujourd'hui, je crois que dans tous les domaines, sauf peut-être en physique théorique, il n'y a plus de cette science pure dont on parle. C'est-à-dire que d'abord la recherche se fait avec des contrats. Donc quand on est obligé de concourir pour obtenir un contrat où on promet de trouver quelque chose dans 4 ou 5 ans, quelque chose qui sera brevetable, qui sera vendable, on n'est plus dans la science pure. Alors on peut dire c'est normal, c'est comme ça, c'est l'évolution de la société, mais on ne peut pas dire que la science n'a pas changé. La notion scientifique, et ça n'échappe pas évidemment à nos concitoyens, qui à ce moment-là se sentent aussi autorisés, avec leur point de vue citoyen, à apporter quelque chose dans cet ensemble qui n'est pas la science pure.
Marie-Françoise Chevalier-Legazère.
Je voudrais évoquer deux personnes qui ont contribué à l'ouvrage. Mathias Girel qui l'a construit avec moi, et il explique très bien que effectivement dans les controverses il y a des objets différents qui se retrouvent. Par exemple sur la vaccination, que vous devez bien connaître, il y a à la fois le danger de la vaccination en elle-même pour certains, et puis les politiques vaccinales. On a des niveaux d'interférence entre des différents types de controverses qui se superposent ou se succèdent à travers le débat. Et aussi, il y a un autre auteur qui est dans le livre, qui est Yannick Barthes, cette fois-ci sur des questions d'enjeux de nucléaire, montrant bien que, et avec d'autres, que les controverses jouent un rôle positif, parce que la controverse, c'est l'image même du progrès, de la progression dans une idée, en changeant le caractère de l'objet, on le fait évoluer positivement, je veux dire. Et donc, dans le cas, il s'agit à ce moment-là de découpler certaines variables. On peut très bien avancer sur une partie du conflit et fixer l'autre et attendre. Donc, il y a une lecture des controverses qu'il faut vraiment apprendre. Et une pratique aussi qui doit se développer. On pourra y revenir peut-être sur les questions d'éducation.
Voilà. Absolument. Laurent Néré, est-ce que du côté juridique, on perçoit ou comment intervient cette complexité, ce nombre d'acteurs différents et souvent antagonistes ?
Mais au vu de ce que j'entends là, en fait, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution à laquelle on a abouti d'un point de vue juridique. C'est que d'un côté, le monde ancien du savoir, hiérarchiquement supérieur, comme en fait étant celui aussi du pouvoir et de la prescription, celui qui allait dire ce qui serait le juste ou l'injuste, auquel les décideurs étaient subordonnés, et de simples greffiers, voilà un excès sûrement qui a vécu une sorte d'allégeance. Je pense beaucoup à, par exemple, la responsabilité médicale, où on va demander à l'expert, au grand spécialiste par exemple du médicament, s'il y a ou non un lien de causalité entre tel vaccin et telle pathologie. Par exemple, la célèbre affaire du vaccin contre l'hépatite B. Ça, il y aurait excès, il y a eu excès pendant longtemps, lorsque le juge a déduit du doute scientifique, l'absence de responsabilité ou l'absence d'indemnisation. Et progressivement, il y a eu un changement, non pas vers l'autre excès qui aurait été celui, par exemple, du barrage absolu, de se dire non à la science, non à certaines évolutions qui présentaient même certains risques douteux, mais soyons vigilants, oui à la transparence, oui à l'information, et non plus à la concurrence entre savoir et vouloir peut-être des patients, mais oui, à la responsabilité, à la responsabilisation. C'est ce que traduit l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a refusé d'abord d'indemniser des victimes de vaccins alors qu'on était en situation de doute scientifique, et qui aujourd'hui l'accepte à condition qu'un certain nombre d'indices concordants soient remplis.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question « À quoi servent les controverses scientifiques ?» avec nos invités Jean-Michel Beignet, philosophe, Marie-Françoise Chevalier-Leguyader, directrice de l'IHEST, Laurent Néré, juriste, et Jacques Testard, biologiste. Alors, maintenant qu'on a établi un petit peu le terrain, même s'il est très complexe et qu'on n'aura pas évidemment le temps de tout explorer, il est intéressant de prendre peut-être quelques exemples pour montrer que, suivant la situation économique, suivant la situation aussi peut-être politique d'un pays, l'impact de l'opinion publique sur les recherches ou sur le développement de certains domaines n'est pas du tout le même. Sur les OGM, prenons cet exemple puisque Jacques Testard en est un familier, c'est quand même un résultat intéressant, hein, qu'on peut juger plus ou moins différemment suivant le point de vue que l'on a, mais aujourd'hui en France, non seulement les OGM sont relativement interdits, mais la recherche sur les OGM a quasiment disparu. Donc c'est quand même un impact fort là de l'opinion publique sur ce domaine.
Oui, mais quand vous dites ça, vous prenez parti dans une controverse actuelle qui est de faire croire que les nouveaux OGM ne sont pas des OGM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir recours à la transgenèse, qui est l'introduction d'un gène dans les cellules, on a recours à d'autres techniques, CRISPR dont on parle, la mutagénèse dirigée, enfin toutes sortes de choses, où on n'introduit pas un gène, mais n'empêche qu'on modifie le génome. Modifiant le génome, pour la plupart des gens qui jusque-là s'exprimaient sur les OGM, ça reste des OGM. Mais actuellement, le lobby, surtout industriel, qui fabrique les semences génétiquement modifiées, essaye, pour des raisons très claires, essaie de faire croire que c'est pas des OGM, parce que si c'est pas des OGM, ils échappent à la réglementation européenne, qui est devenue quand même un petit peu difficile. Donc, il y a un véritable débat là-dessus. Mais si on reprend ce thème des OGM depuis le début, du temps de José Bové, à la fin des années 90,
les arrachages
les paysans ont arraché tout ça, le problème c'était surtout la liberté du paysan de ressemer sa récolte. C'était surtout ça. Il y avait un peu en fond aussi la possible dangerosité de ces produits pour les animaux, pour les hommes. Il y avait des risques pour l'économie, c'est que ça marchait dans les grandes cultures, donc le petit paysan était... Bon, tout ça, c'était des arguments qui sont toujours valables, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il y a des arguments plus forts, je dirais. C'est qu'il est démontré, après 20 ans de culture d'OGM, que ça sert à rien. Et ça, c'est certainement...
Ça, c'était pas tout à fait prévu. C'est-à-dire qu'on essayait plutôt de démontrer, ou on craignait qu'il soit dangereux.
Exactement.
Mais
c'était effectivement
le fait qu'il soit utile était acquis.
Les anti-OGM voulaient démontrer que c'était dangereux. Je veux dire que moi, depuis le début, j'ai eu le nez creux. J'ai dit, arrêtez de vous battre là-dessus. Il faut démontrer que ça sert à rien. Parce qu'à ce moment-là, le moindre danger devient insupportable. Et le principe de précaution implique qu'on les cultive pas. Donc, alors on nous a fait croire que ça allait nourrir l'humanité, que ça allait faire pousser des herbes dans des plantes salées, dans des terrains secs. Tout ça, c'est des histoires. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais ça n'a jamais marché. Autrement dit, et maintenant on remet ça avec CRISPR-Cas9 qui va tout changer. D'un seul coup, ça va devenir enfin efficace.
Donc CRISPR-Cas9, on en a beaucoup parlé sur cette antenne. On a fait même une semaine consacrée à ces techniques de modification de l'ADN. Donc c'est une nouvelle technologie qui, elle, ne fait pas appel à un gène extérieur, mais qui permet de traiter l'ADN un peu comme un traitement de texte où on coupe des morceaux, on peut en remplacer.
Donc il fabrique quand même des OGM.
Donc il fabrique quelque chose dont le génome a été modifié, mais pas de la même façon. Et d'ailleurs, ça échappe à la définition, semble-t-il, officielle de l'OGM, qui, lui, doit être modifié par un gène extérieur à l'organisme en question.
Oui, elle n'est pas encore bien établie au niveau européen. Mais surtout, ce qui apparaît là-dedans, c'est pas du fétichisme de la nature et tout ça. C'est que ce qu'on fait, c'est complètement contraire aux lois de l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution, on le sait depuis Darwin, c'est d'introduire quelque chose dans une espèce, une petite modification, qui prendra pas. Si elle a un avantage, elle prend, sinon elle disparaît. C'est fait à petite dose, d'abord dans un individu, ça se répand si ça a un intérêt. L'OGM, c'est tout le contraire. C'est de balancer sur toute la Terre la même semence qui va contaminer les semences qui étaient là avant et qui va s'imposer, qui va prendre tous les territoires. Donc on est dans un système absurde.
Jean-Michel Beignet, c'est quand même une réflexion philosophique peut se greffer très facilement sur ce que vient d'expliquer Jacques Tessier.
Ah, mais assurément. L'OGM, a été considéré à juste titre comme l'emblème des risques que représente l'artefactualisation du vivant d'une manière générale. Donc c'est pour ça que c'est devenu un petit peu un emblème auquel on peut rallier CRISPR-Cas9, parce que on est exactement dans le même cas de figure. Et l'un des arguments, enfin les plus offensifs contre les OGM, c'était de dire aussi c'est une atteinte portée à la biodiversité. Si on homogénéise la production des plantes, on va donc procéder à une restriction de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est la vie. Et ça, c'est un cas de figure général. On peut dire que à chaque fois qu'il y a technologisation appliquée au vivant et a fortiori à l'humain, eh bien il y a restriction de tout ce qui relève de l'hybridation pour favoriser la duplication. Et ça, c'est proprement attentatoire, effectivement, à la vie qui exige la diversité, qui exige le hasard, qui exige l'aventure, pour le dire de manière peut-être un peu littéraire.
Ce qui ne favorise pas la rentabilisation, en fait.
Qui ne favorise pas la rentabilisation, surtout qui menace même le vivant lui-même. Donc, c'est là où on pose la question, c'est la question que posent précisément les transhumanistes dont dont on ne parlera pas, hein,
mais on peut les citer,
mais qui sont aujourd'hui entêtés de supprimer la reproduction sexuée au profit du clonage, par exemple. Bon, là c'est quand même merveilleux comme exemple, hein. Donc ne plus laisser naître le vivant du fait de la reproduction sexuée, mais le fabriquer précisément grâce à CRISPR-Cas9 ou d'autres choses de cet ordre-là par duplication.
Jacques Néré, pour en finir peut-être avec le chapitre sur les OGM, est-ce que ces débats ont eu des transcriptions judiciaires?
Ce qui est intéressant, c'est de voir tout de même qu'il y a une vraie démocratie qui vit toujours et qui survit en la matière, et que parfois la déception du public à l'égard des décisions politiques en matière climatique, dont on reparlera tout à l'heure, mais par exemple aussi en matière d'OGM, cette déception-là se traduit par une judiciarisation, c'est-à-dire par une saisie du juge comme étant peut-être le dernier recours pour s'en sortir. Et je pense à un contentieux récent à propos de la destruction de plants de vignes OGM en 2010, qui avait donné lieu à une action contre les faucheurs OGM, lesquels ont été relaxés sur le terrain du délit de fauchage volontaire, parce que la cour d'appel de Colmar avait considéré que l'autorisation qui avait été donnée l'avait été, alors même que les références quant à la légalité ou quant à l'intérêt de cet essai n'étaient pas suffisants. Bon, la cour de cassation est revenue sur cette décision, non pas parce qu'elle considérait que c'était légitime, mais parce qu'elle considérait qu'il fallait argumenter davantage. Mais c'est intéressant de voir que le juge est aussi le gardien de la manière dont la controverse où le débat scientifique s'opère d'une manière juste au vu des critères habituels de la justice, c'est-à-dire le contradictoire, c'est-à-dire la scientificité, c'est donc des arguments suffisamment débattus et étayés.
Alors là, c'est le juge quand même, c'est ça qui est intéressant dans l'ensemble des acteurs qui deviennent des intervenants majeurs, c'est le juge qui décide si l'intérêt scientifique de cet essai, en particulier de Colmar, qui a fait couler beaucoup d'encre, était suffisant. Donc c'est lui qui prend la décision de trancher sur cette question.
Mais il le fait eu égard à des critères juridiques que sont les critères liés aux modalités et aux procédures liées à l'autorisation. Pour que l'autorisation ait lieu, il faut qu'il y ait des études qui soient menées, des controverses qui soient présentées et des arguments à ces controverses. Et là, c'est ce que le juge a considéré comme étant lacunaire.
Il ne tranche pas
la controverse, il tranche plus exactement la manière dont le débat a eu lieu et a été pris en compte.
Alors un autre exemple peut-être que l'on peut citer avant de parler du réchauffement climatique, qui est un très bel exemple aussi, c'est présente un aspect très différent, c'est le nucléaire en France. Le nucléaire en France qui, rappelons-le, après Fukushima, les opposants au nucléaire ont un bref instant été plus nombreux en France, et puis petit à petit, en moins d'un an je crois, les sondages ont donné les mêmes résultats avec une approbation assez large du public en France sur le nucléaire, alors que on voit que nos voisins allemands ont pris une position très différente après Fukushima. Donc il semblerait que un autre acteur là intervient, qui est une espèce de, certains l'appellent le lobby nucléaire, mais ça peut être aussi simplement une force nationale qui intervient et qui pèse sur l'opinion publique. Marie-Françoise Chevalier-Lebiadère.
Je voudrais revenir sur, à propos de ce que vous dites, Michel, sur la notion de l'expertise. Parce que devant le tribunal, il y a des experts. Dans le débat public, on convoque des experts. C'est devenu finalement le troisième homme, la troisième personnalité qui joue entre le scientifique et le politique. Et cette expertise, bon, qui répond toujours à des critères de commande, hein, qui vise à cerner les horizons, à apporter une vision un peu stabilisée, moins incertaine, même si parfois elle lève des incertitudes, comme le disait Laurent Néré. Cette expertise, dorénavant, elle est partagée, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des experts selon les commandes, qui peuvent être d'horizons extrêmement différents. Et c'est vrai que dans le débat sur le nucléaire, on trouve cette pluralité de porteurs d'expertise. Donc, toujours, quand on est dans le débat ou dans la controverse, quelles sont les légitimités des uns et des autres, quel type type d'intérêt ils portent, quel type de commandes ils ont reçues, mais qu'on soit scientifique, industriel, militant, etc. Donc je pense qu'il faut s'habituer à prendre du recul par rapport à ces débats et réfléchir aux légitimités des uns et des autres, et elles apportent toutes quelque chose d'intéressant. Je veux dire, ce n'est pas du tout une critique des uns ou des autres, mais quelles sont finalement leur posture, d'où viennent-ils, où veulent-ils aller, et c'est là qu'on voit bien que les controverses se jouent à de multiples niveaux.
Absolument, et dans le nucléaire d'ailleurs.
Et dans le nucléaire, on le voit.
On peut rappeler, la source du débat, c'est un petit peu le nuage de Tchernobyl, qui a fait l'objet d'une expertise d'un certain professeur Pellerin à l'époque, qui a décidé que la France n'avait pas été touchée, et qui a décision donc contestée, qui a donné lieu à la création de la CRIRAD, qui est un organisme d'expertise voilà. Indépendant.
Mais je dirais, c'est incroyable cette histoire de nuages. J'étais au CEA à l'époque et j'avais les informations qui arrivaient en direct de la communication. Mais aujourd'hui, sur un tout autre sujet, il y a des choses qui s'arrêtent à la limite du Rhin. C'est le problème des maladies de Lyme. Elle n'est pas reconnue de notre côté, et elle est reconnue de l'autre côté du Rhin. Et on voit, donc voilà, c'est une plaisanterie peut-être, mais non, c'est parce que ça atteint des gens, c'est une pathologie importante, et on voit bien qu'il y a dans ces controverses, quelles qu'elles soient, des enjeux d'une autre nature qui jouent.
Peut-être un mot sur le nucléaire, Jacques Testard, comment vous jugez cette, on va dire, une exception française, là, parce que là, on peut parler d'exception française, je crois qu'on est le seul pays à avoir 75...
Hein. Pour les OGM, il n'y aurait pas eu les paysans arracheurs de plantes, les faucheurs volontaires, le mouvement n'aurait pas existé comme il était en Europe et gagné jusqu'au continent américain. Donc on peut dire qu'en France, on est des emmerdeurs, quoi.
Oui, alors là, ce sont simplement deux exceptions opposées, si vous voulez, d'une certaine façon. On a réussi la France a bloqué les OGM alors qu'elle continue à adhérer assez fortement au nucléaire.
Oui, parce que la France était pilote dans le nucléaire alors qu'elle n'était pas pilote dans les OGM. Ça nous venait d'outre-Atlantique. Tandis que dans le nucléaire, on a prétendu, c'était une politique nationale depuis longtemps.
Vous voulez dire que si Monsanto avait été français, peut-être que les choses se seraient passées différemment.
Peut-être. Mais en tout cas, l'opposition, elle existe depuis longtemps, hein. Depuis avant Tchernobyl, l'opposition au nucléaire quand même. Et elle est loin d'être morte. Moi, je vous assure que ça bouge toujours beaucoup, hein.
Bah, on voit quand même que les promesses même d'un gouvernement de gauche de fermer une centrale avant 2017 semblent mal engagées, ou pas engagées du tout d'ailleurs.
Toutes les promesses de ce que vous appelez un gouvernement de gauche sont très mal engagées.
Certes, mais là nous parlons de celles qui ont un rapport avec un sujet technologique ou scientifique. Cette posture de l'opinion publique, Jean-Michel Beignet, vis-à-vis du nucléaire, comment vous la ressentez? Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est à cause de cette prédominance du nucléaire en France ou pour d'autres raisons?
Moi, je crois que le nucléaire, il a joué un rôle absolument décisif dans la mise en branle de l'opinion publique par rapport aux questions de science et de technique. Enfin, ça date des années, de la fin des années 60, enfin, où le nucléaire était associé à des décisions centralisatrices, dirigistes, hein, qui comptaient pour rien les populations, comptaient pour rien l'interlocution avec le public. Et donc, de ce point de vue-là, le nucléaire est apparu comme l'objection même à la démocratie, hein, et à la délibération. Et ce qui est intéressant, et là je remondirai un petit peu sur ce que disait Marie-Françoise Le Guyader, ce qui est apparu, c'est que la personne de l'expert, hein, s'est imposée comme finalement celui qui ne discute pas, qui est censé pouvoir informer, hein, et le débat est apparu aux citoyens immédiatement comme biaisé, hein. On envoyait pour pacifier les populations en colère des experts qui venaient débattre des relations entre les bénéfices et les inconvénients des technologies qu'on voulait imposer, alors même que ce dont voulaient parler les citoyens, c'était précisément de questions éthiques, de questions de bien vivre, de choix de vie, et ça, les puissances publiques sont passées complètement à côté, hein, de cette perception qu'ont eu les gens des experts. L'expert venant donc délivrer des informations susceptibles d'apaiser complètement les conflits, dès lors qu'on disait qu'il y avait plus de bénéfices que d'inconvénients. Alors que ce dont voulaient parler les citoyens, c'était est-ce que on doit favoriser une société qui veut fonctionner à haute énergie ? Est-ce que on veut favoriser une société qui veut de la compétition ? Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Et donc, je crois que la controverse, là, de ce point de vue-là, elle est passée complètement à côté. Enfin, l'esprit de la controverse est passé complètement à côté des pouvoirs publics qui n'ont rien compris à ça. Et avec les nanotechnologies, ça a été encore plus flagrant.
Voilà un modèle similaire d'évangélisation en réalité qui était masqué sous un apparent débat public.
Alors qu'il n'y avait pas de débat.
Ouais. Il y a un autre sujet peut-être qui a un rapport avec le nucléaire dans la mesure où le danger est invisible, ce sont les ondes électromagnétiques, Laurent Néré, qui ont beaucoup agité aussi l'opinion publique, beaucoup fait réagir certaines communautés ou collectivités concernées par des antennes par exemple, alors que parallèlement, le savoir scientifique, lui, est relativement muet pour l'instant. On n'a pas pu trancher.
Alors, je voudrais dire qu'effectivement, en matière de droit français comme de droit européen, le principe de précaution a une valeur très importante, notamment et dans la Charte de l'environnement, donc adossée à la Constitution, qui, contrairement à ce que disent certains, ne signifie pas une quête du risque zéro ou une inertie du développement scientifique ou économique, mais plutôt, à l'inverse, une obligation d'agir dans le doute. Dans le doute, agis plutôt que abstiens-toi. Et à propos des ondes électromagnétiques, à propos par exemple des effets liés aux antennes relais ou bien des champs électromagnétiques liés aux lignes à très haute tension, on a plusieurs décisions de justice assez intéressantes. Par exemple, la cour d'appel de Versailles en 2009 avait condamné un opérateur de téléphonie mobile à démanteler une antenne et à allouer des dommages et intérêts pour le trouble subi par des riverains. Ce n'était pas lié au fait que le juge ait considéré qu'il y avait avec certitude des conséquences pour la santé de ces riverains, pas du tout, mais parce que l'opérateur n'était pas capable de démontrer l'absence de risque, ou plus exactement l'innocuité. Et plus encore, le préjudice qui était réparé ici, c'était le préjudice d'angoisse lié à l'absence d'information. Je crois que ce qui est intéressant ici, c'est que ça révèle en creux le besoin d'information, le besoin de transparence de la part du public. Et pour avoir pendant longtemps travaillé en matière de responsabilité médicale, je vais vous dire que 80 ou 90% des contentieux dans lesquels des victimes d'accidents médicaux poursuivaient le corps médical étaient liés au fait qu'on ne les avait pas informés, on ne leur avait pas dit qu'il y avait ce risque, même s'il était exceptionnel. Alors qu'à chaque fois qu'on leur a parlé ou qu'on leur a dit, bon, ils ont accepté. Première décision. Puis l'autre décision concerne les champs électromagnétiques, où là, à l'inverse, je dirais, le doute a profité à l'exploitant. Un éleveur déplorait l'impact sur son élevage et sur son bétail, l'impact sanitaire avec une diminution de production de lait. Il l'imputait au champ électromagnétique d'une ligne à très haute tension. Puis on est allé jusque devant la Cour de cassation, laquelle a dit, effectivement, il y a une controverse scientifique en la matière sur le lien de causalité. Mais là, l'incertitude liée à ce lien de causalité est telle que l'on ne peut pas accepter d'allouer une réparation à cet éleveur. Alors je ne sais pas si c'est juste ou si ça ne l'est pas. Il n'empêche que cette décision, elle révèle quand même que, en cas d'évolution de ces connaissances, une possible condamnation serait possible. Voilà qui est une approche de la temporalité aussi de la connaissance qui est importante en termes de justice.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question « À quoi servent les controverses scientifiques ?» avec nos invités Jean-Michel Beignet, philosophe, Marie-Françoise Chevalier-Leguyadère, directrice de l'IHEST, Laurent Néré, juriste, et Jacques Testard, biologiste. Alors à ce stade-là, justement, je rebondis sur le terme « information » que vous avez mentionné comme étant parfois au cœur de la démarche judiciaire. Jacques Testard, comment, là, on peut penser que le déficit d'information est quelque chose qui alimente beaucoup les controverses ou les attaques juridiques envers un tel ou un tel.
Oui, effectivement, c'est aussi ce que certains reprochent aux lanceurs d'alerte, c'est de dire, mais ces gens-là, finalement, qu'est-ce qu'ils nous prouvent qu'ils sont pas en train de défendre leur beefsteak ou de lancer une fausse information contre leur patron? Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas s'occuper du lanceur d'alerte sans s'occuper de l'alerte elle-même, et qu'il faut expertiser l'alerte. Bien sûr, il faut protéger le lanceur d'alerte, mais si jamais il a donné une fausse information, il faudrait aussi qu'il passe en justice. Mais l'alerte elle-même est fondamentale, parce que si par exemple on avait pris au sérieux des médecins qui lançaient des alertes sur l'amiante en 1920, ça fait un siècle, on aurait économisé des dizaines de milliers de vies humaines. Donc c'est quelque chose de dramatique. Et on pourrait dire que d'investir dans l'expertise des alertes, c'est de l'argent perdu, mais pas du tout. Ce serait un gain énorme, une économie de santé formidable. Donc il y a cet aspect. Et puis il y a l'aspect que... À un certain moment, il faut que le politique prenne des décisions dans toutes ces controverses. Et moi, je fais partie des gens qui défendent l'idée des conférences de citoyens, que nous avons renommées conventions de citoyens, pour des raisons que j'ai pas le temps d'expliquer, mais parce que c'est un protocole assez strict, alors que les conférences de citoyens, c'est vague, mais où je pourrais expliquer en 2 minutes, je peux.
Oui, bien sûr.
Donc, il s'agit de tirer au sort 15 à 20 personnes, en veillant à ce qu'il y ait la plus grande disparité possible, la plus grande variété de personnes, que ces personnes n'aient pas d'intérêt particulier à défendre, parce que le tirage au sort pourrait très bien amener un leader qui vienne défendre quelque chose, ce serait malheureux. Et ces personnes-là vont recevoir une formation, et c'est là toute l'astuce que nous avons introduite avec Sciences Citoyennes dans les conventions de citoyens. Cette formation, elle est établie par un comité de pilotage pluriel, c'est-à-dire composé de gens dont on sait qu'ils ont exprimé des points de vue différents, de gens qui sont souvent des experts, des points de vue différents sur le sujet. On va les mettre dans le même comité et on va leur donner une seule tâche, établir le programme de formation, de façon à ce que ce programme soit le plus objectif possible, parce qu'il aurait été établi par consensus entre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Et à ce moment-là, les citoyens vont avoir une formation assez longue, c'est étalé sur 3 week-ends, sur plusieurs mois, et vont pouvoir entendre tous les points de vue, discuter avec des experts, dans des temps qui sont tout à fait chronométrés, dans des conditions qui sont vérifiées pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prenne l'ascendant et qui vienne défendre son point de vue par rapport à celui des autres. Et à la fin, ils rendent un avis. Alors, ce système-là, ça permet de mettre le citoyen entre l'expertise scientifique et le politique. Parce que jusqu'ici, le politique, comment fait-il pour prendre une décision sur les grands sujets dont on parlait? Évidemment, il n'y connaît rien. Donc, il convoque les experts. Les experts, même s'ils sont honnêtes, ils sont toujours plus ou moins inféodés à une idéologie, si ce n'est à une économie. Donc, c'est pas des gens qui portent l'objectivité et conformes au bien commun. Alors que le citoyen, dans les conditions que nous avons précisées, vont apporter des solutions qui sont conformes au bien commun. Et évidemment, il appartient aux politiques, dans notre système politique actuel, de trancher et de prendre sa décision à partir de là.
Laurent Néré, après et avant Marie-Françoise, je vais le garder.
Cette expérience est tout à fait intéressante, et illustration d'un regain de démocratie. Et ce que révèle Jacques Testard, c'est la dimension consultative en la matière. Je voudrais citer aussi un exemple qui va encore plus loin dans la démocratie participative, qui est le référendum local, celui dont on parle à propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans ce cas-là, où on va informer le public sur les effets, les risques et les bénéfices ici d'un projet industriel. C'est pas une controverse scientifique, mais d'un projet tout de même.
Il y a un aspect écologique.
Et il y a un aspect, évidemment, lié à la controverse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en fonction de la réponse des citoyens, le décideur politique sera tenu par cette décision. Alors, on peut y voir un regain de démocratie. Parfois, on peut y voir aussi une forme de déresponsabilisation des responsables politiques aussi.
Ou une manipulation.
Mais voilà qui permet d'avoir, je dirais, une continuité entre les conférences de consensus et les référendums locaux.
Marie-Françoise Chevalier-Guyader, vous voulez intervenir un moment.
Je voudrais juste noter que, et je le vis en permanence dans ce que nous faisons à l'Institut des hautes études, il faut toujours partir d'un socle commun partagé. C'est-à-dire qu'il faut arriver, quelles que soient les positions des uns et des autres, à partager ensemble un socle commun, d'accepter, quoi, de partager quelque part les éléments de la controverse. Après, il y a des raisonnements de l'ordre de la rationalité scientifique, des raisonnements de l'ordre de plus de, des valeurs, de qui se mêlent. Mais ce socle commun, il est fondamental. Et il pose aussi la question du langage, c'est-à-dire comment. Dans quelle langue, de quelle manière le développer. Et c'est pour ça que je pense que on voit aujourd'hui de plus en plus fréquemment le droit intervenir pour trancher, hein, pour apporter l'ultime réponse en lieu et place de la science quelque part, hein, dans un certain nombre de controverses. Et c'est parce qu'aussi le langage du droit, sa démarche plus binaire aussi, hein, s'adapte bien quelque part à la problématique de la controverse, et elle permet de la rendre beaucoup plus facilement finalement réductible.
Jean-Michel Beignet, quel rôle pourrait jouer la philosophie dans ce socle commun dont parlait Marie-Françoise Chevalier-Lugliadère, c'est-à-dire en gros dans les éléments nécessaires au grand public pour se forger sa propre opinion avec effectivement différentes dimensions qui peuvent être des dimensions scientifiques mais aussi écologiques, politiques, voire mais aussi évidemment philosophiques.
Bah, souvent le rôle du philosophe peut consister à favoriser le décentrement. Parce que finalement, s'il y a polémique, la plupart du temps, c'est parce que chacun est centré sur son point de vue. Hein. Donc le philosophe qui pourrait avoir l'art de mettre en perspective les problèmes, de leur donner une toile de fond, quelquefois même déconcertante, peut favoriser effectivement l'instruction des controverses. Hein, je pense que, par exemple, c'est Bruno Latour qui, pour précisément évacuer le risque de relativisme, dit que finalement la situation de la science aujourd'hui, c'est plutôt le relationnisme, être capable d'argumenter le fait que les vérités scientifiques ou les positions technoscientifiques, elles sont toutes, mais Jacques Testard le disait tout à l'heure, elles sont toutes imbriquées dans un ensemble de points de vue, de champs d'intérêt, de rapports de force, et être capable d'instruire ces relations multiples qui entourent l'objet d'une controverse, c'est se donner la possibilité d'éviter d'abord le dogmatisme et l'idéologie qui est toujours la domination d'une idée unique, hein, c'est éviter cela, et c'est permettre de mettre en argumentation, hein, l'objet de ces controverses. Hein. Il y a controverse lorsqu'il y a constitution d'une logique argumentative, et cette logique argumentative, elle suppose précisément cette aptitude au décentrement, et je crois que le philosophe, s'il pouvait intervenir dans le jeu, mais en général, on s'en occupe pas beaucoup, c'est ça qu'il peut faire. Et je pense que il faudrait que les pouvoirs publics s'en avisent.
Tous les philosophes non plus ne s'intéressent pas forcément à ces sujets-là aujourd'hui.
Il y en a qui tombent dans la soupe et qui s'y sentent très bien.
Alors, un autre exemple qui est intéressant, c'est peut-être le gaz de schiste dans lequel, pour la première fois peut-être, vous me direz si je me trompe, une position par rapport à une perspective d'une ressource qui serait sous nos pieds et qui serait précieuse, est simplement rejetée pour d'emblée tenir compte d'un risque écologique grave, puisqu'on voit qu'aux États-Unis les choses ont été assez dramatiques, mais un risque écologique qui est peut-être auquel on peut trouver peut-être des solutions. Jacques Testard, comment vous jugez-vous cette mécanique là qui a conduit à interdire la recherche même, c'est-à-dire l'exploration du sous-sol français, et qui a mis probablement un terme aussi à la recherche un peu, ou du moins pas stimuler la recherche sur la fracturation hydraulique propre?
Je crois que c'est la conséquence de la prise de conscience par la plupart des gens dans le monde du mauvais état de la planète. C'est-à-dire, on peut pas continuer d'exploiter. Aujourd'hui, il y a un slogan qui dit, il faut laisser 80% de ces ressources minérales fossiles, faut les laisser dans le sol. Et il y a même des pays qui voudraient être indemnisés pour ne pas exploiter les ressources pétrolières. C'est assez intéressant quand même, comme point de vue. Donc c'est quelque chose de nouveau, effectivement. C'est une prise de conscience d'une autre dimension que le bien-être local, par exemple, ou le bien-être aujourd'hui, mais une prise de conscience
ou l'intérêt économique
de la planète pour après et pour tout le monde. Et là, Bon, mais on voit quand même que ça n'est pas partagé par tout le monde. J'ai vu que parmi les candidats à la primaire de droite, il y en a qui disent gaz de schiste, il faut les exploiter, il n'y a pas de raison. Il y a aussi cette idée un peu sommaire de dire on ne peut pas empêcher la science d'avancer à ce propos. Et justement, l'exploration n'est pas l'exploitation. Donc l'argument de ces gens-là, c'est de dire l'exploration, c'est de la science, c'est de la connaissance. Savoir s'il y a quelles ressources il y a dans le sous-sol à tel endroit. Donc comment peut-on empêcher la connaissance? Il y a un peu la même chose avec la chasse à la baleine, où les Japonais prétendent qu'ils tuent des baleines pour la connaissance, parce qu'ils feraient de la recherche, paraît-il. Bon, tout ça, c'est vraiment se moquer du monde.
En même temps, là, on a l'exemple, effectivement, d'une autre dimension que celle de stricto sensu dont on parle, c'est-à-dire, en gros, les ressources en gaz. Il faut quand même rappeler que ce gaz que l'on n'extraira pas du sous-sol français vient de Russie ou de Finlande, et que donc on le consomme quand même, et donc il est extrait ailleurs simplement.
Oui, mais il y a la prise de conscience qu'il va falloir consommer de moins en moins, ce qu'on appelle
donc décroissance.
C'est quand même une position qui est de plus en plus partagée, même si le mot fait un peu peur, mais qu'on ne peut pas consommer toujours plus, qu'il y a forcément une limite.
Alors ça, c'est quand même un facteur nouveau aussi, cette interférence entre une dimension supérieure à celle dont on parle, qui finit par prendre l'ascendant et conduire à une décision, à une position qui a un effet législatif, là, pour le coup, puisque la France interdit l'exploration et l'exploitation, a fortiori, du gaz de schiste en France, Laurent Néré.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir tout de même qu'une problématique unique, comme celle de l'exploration, de l'exploitation des gaz de schiste, n'est pas traitée de la même manière selon les États, parce que juridiquement, à l'échelle du droit international, le grand principe qui prévaut, c'est celui de la souveraineté. Alors, la souveraineté, oui, j'y adhère, mais quand il est question d'une solidarité de destin terrestre, comme dit Edgar Morin, c'est une solidarité d'un peu du chacun pour soi, du solitaire, et on en oublie certainement la solidarité internationale. Ça c'est un préalable. Alors oui, sur ce dossier, la France a choisi l'interdiction. Je voudrais révéler plusieurs éléments en la matière. Ce qui est intéressant, c'est que un exploitant texan qui a poursuivi l'interdiction en la matière et a saisi le Conseil constitutionnel en 2013, s'est prévalu du principe de précaution pour pouvoir faire en sorte de considérer que la loi d'interdiction était anticonstitutionnelle. C'est tout à fait original, parce que d'habitude, on élève le principe de précaution comme étant un frein à une avancée présentée comme étant bénéfique. Ici, le principe de précaution était mis en avant par cet exploitant texan pour justifier l'exploitation des gaz de schiste. Et le Conseil constitutionnel a affirmé plusieurs choses. D'abord, il a dit effectivement que la France avait la possibilité de limiter le principe de la liberté d'entreprendre quand un intérêt général est supérieur, comme la préservation de l'environnement était ici celui qui devait l'emporter, premier point. Et puis autre point, il n'était pas question ici de principe de précaution ou de doute, parce que les risques étaient connus. Et c'est intéressant aussi parce que souvent on parle de controverse, on parle de doute, et puis on se dit que toute la période pendant laquelle certains vont même mettre beaucoup d'argent pour produire du doute, vous parliez de l'amiante, on peut parler aussi des effets liés au tabac, beaucoup ont investi pour insuffler du doute dans l'esprit des responsables politiques et dans l'esprit des juges, et pendant toute cette période, on a continué à considérer que ces produits-là pouvaient rester sur le marché, étaient légaux, je pense aussi à certains médicaments qui font l'objet d'un grand contentieux aujourd'hui, et à un moment donné...
Le tabac reste sur le marché malgré les conclusions qui maintenant ne font plus de doute du corps médical, par exemple, sur...
Effectivement, mais l'action de l'État n'avait pas été la même, et la prévention et les mesures de prévention n'étaient pas les mêmes aussi. Par exemple, Stéphane Foucart dans son livre, et là il faut louer la force des journalistes aussi, hein, en la matière, la fabrique du mensonge a bien montré que l'entreprise du tabac avait investi beaucoup d'argent pour diluer la causalité liée au tabac en matière de cancer en finançant des recherches sur les prédispositions à ce cancer, des prédispositions naturelles.
Alors ça, c'est quand même un phénomène qui est assez nouveau, et je crois que c'est Jacques Testard qui en parlait tout à l'heure sur le financement des chercheurs par l'industrie, en fait, pour le dire d'une façon assez brutale. On voit que c'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour... ça a été vrai également pour le réchauffement climatique, où pas mal d'études étaient financées par des groupes pétroliers. Et il y a donc de plus en plus aussi une difficulté de la science à s'extraire ou à rester indépendante et à fonctionner sans avoir besoin des subsides de ces sources de financement.
Absolument, et ces sources de financement, c'est pas forcément pour des intérêts industriels étroits, ça peut être pour ce que certains perçoivent comme étant l'intérêt national, par exemple. Et c'est assez frappant de voir qu'en France, on a évoqué tout à l'heure le transhumanisme, mais en France, on est plutôt hostile, on rigole un peu, on a tort, à mon avis, c'est plus grave que ça. Aux États-Unis, c'est devenu quelque chose de très important, ça va le devenir chez nous aussi, et c'est assez inquiétant. Mais si on regarde les priorités qui sont données, les grands champs de recherche qui sont financés, c'est les champs de recherche qui servent le transhumanisme. Autrement dit, il y a quelque part des gens qui décident des priorités de recherche. La recherche, évidemment, il y a longtemps qu'elle n'est plus libre. Le chercheur, il fait là où on lui dit de faire. Et on lui donne de l'argent pour trouver quelque chose. Donc, on ne peut pas continuer de croire que la science est neutre ou qu'on ne sait pas où elle va. On sait très bien où elle va. Mais ceux qui ont décidé d'où elle va... aujourd'hui, la société remet en doute, remet en cause les décisions des priorités de recherche, par exemple. Et ça fait partie, c'est aussi une grande controverse.
C'est quand même un phénomène majeur aujourd'hui, cette difficulté de la science de s'abstraire de ces pressions.
Vous avez dans le livre, Michel, qui est l'objet d'un peu de la rencontre sur Au cœur des controverses, deux papiers, un de Stéphane Foucard et l'autre de Mathias Girel, sur précisément ces questions autour du doute et de la manipulation. Et c'est vrai que, et également aussi, je voudrais évoquer ce que vous avez évoqué, Laurent, rapidement, mais le syndrome du NIMBY qui est toujours très présent dans nos sociétés, c'est-à-dire que la personne accepte pour le collectif ce qu'elle n'accepte pas pour elle-même. Et là, c'est un autre auteur, Romain Garcier, qui était avec nous, qui l'a développé. Ce sont des éléments qu'il faut absolument inculquer aux personnes qui prennent des responsabilités, parce qu'il faut qu'ils comprennent que ces jeux-là existent, sont bien réels, qu'il y a énormément de sciences, de philosophes, d'historiens des sciences, de scientifiques qui approchent ces questions-là et que ça fait partie de notre patrimoine collectif. Maintenant, désormais, on peut pas tout à fait raisonner de la même manière qu'on le faisait peut-être plus naïvement il y a 20 ans ou il y a 40 ans.
Merci beaucoup, et ce sont sur ces mots que le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Jean-Michel Beignet, Marie-Françoise Chevalier de Guyadère, Laurent Néré et Jacques Testard d'avoir participé à cette émission. Sur notre site, vous trouverez des liens avec l'université d'été de l'IHEST sur les controverses, et aussi avec l'ouvrage publié par Actes Sud sur ce sujet, ainsi qu'avec une sélection des ouvrages très nombreux publiés par nos invités d'aujourd'hui. Toujours sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an, et bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. C'est possible tout en bas de la page de Sciences Publiques. La semaine prochaine, vendredi 20 mai, Sciences Publiques participera à la semaine consacrée par les émissions de Culture Science aux relations entre cinéma et science à l'occasion du Festival de Cannes. Nous nous interrogerons sur la fascination qu'exerce l'apocalypse sur les réalisateurs de films. Pourquoi la fin du monde ou de l'humanité est-elle au cœur de nombreuses productions telles que Le Jour d'après, Armageddon, Wall-E, Je suis une légende, Terminator, Waterworld et même Matrix. La liste est très longue et nous débattrons des raisons de cette fascination avec nos invités, Jean-Baptiste Fresson, Alain Musset et Serge Gorielli. Sciences Publiques, Dany Journeau, Alexandre Dang, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Okay. Are you ready to...